Chapitre 7. Les sociétés coloniales, diversité et domination. Nous venons d'étudier les sociétés esclavagistes et les conditions de leur disparition, en particulier dans l'espace atlantique et euro-américain. Cela nous a permis d'observer certaines facettes étonnantes du régime de quasi-sacralisation de la propriété privée en vigueur au XIXe siècle. C'est ainsi qu'il fallut indemniser les esclavagistes et non les esclaves lors des abolitions, et que des esclaves libérés durent payer un lourd tribut à leurs anciens propriétaires pour prix de leur liberté, à l'image du paiement d'Haïti à la France, qui s'est poursuivi jusqu'au milieu du XXe siècle. Nous avons également analysé comment la guerre civile et la fin de l'esclavage avaient conduit aux États-Unis au développement d'un système spécifique de partis politiques et de clivages idéologiques, avec des conséquences considérables sur les évolutions ultérieures et la structure actuelle des inégalités et du conflit électoral aux États-Unis comme en Europe et d'autres parties du monde. Nous allons maintenant nous pencher sur des formes de domination et d'inégalité moins extrêmes que l'esclavage, mais qui ont concerné de beaucoup plus vastes parties de la planète dans le cadre des empires coloniaux européens et qui se sont prolongées jusqu'aux années 1960 avec des conséquences profondes sur le monde actuel. Des recherches récentes permettent d'apporter quelques éléments de comparaison concernant l'ampleur des inégalités socio-économiques dans les sociétés coloniales et dans les sociétés contemporaines, et nous allons commencer par là. Nous passerons ensuite en revue les différents facteurs expliquant les très fortes inégalités coloniales. Les colonies étaient très largement organisées pour le seul bénéfice des colons, notamment en termes d'investissement social et éducatif. Les inégalités de statut juridique étaient très marquées et mettaient en jeu diverses formes de travail forcé. Tout cela était structuré par une idéologie qui se fondait sur la vision d'une domination intellectuelle et civilisatrice, et non plus simplement guerrière et extractive, contrairement au cas des sociétés esclavagistes. Nous verrons également que la sortie du colonialisme mit en jeu des débats sur des formes de fédéralisme démocratique régional et transcontinental qui, avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, apparaissent riches de leçons pour l'avenir, même s'ils n'aboutirent pas dans l'immédiat. Les deux âges du colonialisme européen. Il n'est évidemment pas question de proposer ici une histoire générale des différentes formes de société coloniale, ce qui dépasserait de très loin le projet de ce livre. Plus modestement, mon objectif est de replacer le cas des sociétés coloniales dans l'histoire des régimes inégalitaires, et d'insister sur les éléments les plus importants pour l'analyse des évolutions ultérieures. De façon générale, on distingue souvent deux âges de la colonisation européenne. Un premier âge qui débute autour de 1500, avec la découverte de l'Amérique et des voies maritimes de l'Europe vers l'Inde et la Chine, et qui se termine vers 1800-1850, en particulier avec la fin graduelle de la traite atlantique et de l'esclavage, et un second âge qui débute autour de 1800-1850, qui prend son ampleur maximale entre 1900 et 1940 et qui s'achève avec les indépendances des années 1960, voire dans les années 1990, si l'on inclut dans ce schéma colonial le cas spécifique de l'Afrique du Sud et de la fin de l'apartheid. Pour simplifier, le premier âge de la colonisation européenne entre 1500 et 1800-1850 correspond à une logique qui est aujourd'hui largement reconnue comme guerrière et extractive, s'appuyant sur une domination militaire violente et le déplacement forcé ou l'extermination de populations, que ce soit dans le cadre du commerce triangulaire et du développement de sociétés esclavagistes dans les Antilles françaises et britanniques, dans l'océan Indien, au Brésil ou en Amérique du Nord, ou dans celui de la conquête espagnole de l'Amérique centrale et méridionale. Le second âge colonial, entre 1800-1850 et 1960, est souvent présenté sous un angle plus doux et bienveillant, en particulier au sein des pays ex-colonisateurs, qui insistent souvent sur les dimensions intellectuelles et civilisatrices de la domination coloniale au cours de cette seconde phase. Si les différences entre les deux phases sont bien réelles, il n'en reste pas moins que la violence ne fut guère absente de la seconde, et que les éléments de continuité entre les deux âges sont évidents. En particulier, nous venons de voir dans le chapitre précédent que l'abolition de l'esclavage s'est étalée sur quasiment tout le XIXe siècle, et surtout que l'esclavage a laissé place à diverses formes de travail forcé, dont nous allons retrouver des traces bien vivantes jusqu'au milieu du XXe siècle, notamment dans les colonies françaises. Nous allons également voir que les sociétés esclavagistes et les sociétés coloniales post-esclavagistes figurent toutes deux parmi les sociétés les plus inégalitaires de l'histoire en termes de concentration des ressources économiques, même s'il existe effectivement une différence de degré. Il est également habituel de distinguer les colonies comprenant un peuplement significatif d'origine européenne et les colonies où ce peuplement est extrêmement faible. Dans le cas des sociétés esclavagistes du premier âge colonial, 1500-1850, nous avons vu que c'était dans les Antilles françaises et britanniques que la proportion d'esclaves avait atteint son zénith, avec plus de 80% d'esclaves dans les différentes îles concernées et un sommet de 90% d'esclaves à Saint-Domingue, Haïti, dans les années 1780, où se trouvait la plus forte concentration d'esclaves de l'époque et qui conduisit à la première révolte victorieuse en 1791-1793. Il reste que la proportion d'Européens avoisinait ou dépassait les 10% dans les îles des Antilles au XVIIIe et XIXe siècles, ce qui est considérable si l'on compare à l'ensemble des sociétés coloniales. La domination esclavagiste reposait sur une soumission totale et complète, et elle exigeait de fait une proportion significative de colons. Dans les autres sociétés esclavagistes étudiées dans le chapitre précédent, et qui d'ailleurs furent plus durables, la proportion d'Européens était encore plus forte. Elle était en moyenne de l'ordre de 2/3 pour environ 1/3 d'esclaves dans le sud des États-Unis, avec un minimum d'un peu plus de 40% de blancs pour près de 60% d'esclaves en Caroline du Sud et au Mississippi dans les années 1850. Au Brésil, la population esclave avoisinait les 50% au XVIIIe siècle et s'abaissa autour de 20-30% dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dans le cas de l'Amérique du Nord comme de l'Amérique latine, il faut toutefois souligner que la question du peuplement européen engage également celle de la chute brutale du peuplement autochtone, ainsi que la question des métissages. Au Mexique, on estime par exemple que la population autochtone était comprise entre 15 et 20 millions d'habitants en 1520, et que, à la suite de la conquête militaire, du chaos politique et des maladies apportées par les Espagnols, cette population s'est abaissée à moins de 2 millions autour de 1600. On constate au passage une progression rapide du métissage entre la population autochtone et les populations d'origine européenne et africaine, qui aurait atteint un quart de la population vers 1650, entre 1/3 et la moitié en 1820 et près des 2/3 en 1920. Sur les territoires actuellement occupés par les États-Unis et le Canada, on estime que les populations amérindiennes étaient comprises entre 5 et 10 millions à l'arrivée des Européens, avant de chuter à moins d'un demi-million autour de 1900, à un moment où les populations d'origine européenne dépassaient les 70 millions d'habitants, si bien que ces dernières devinrent ultra-dominantes, sans métissage significatif, ni avec les populations autochtones, ni avec celles d'origine africaine. La question de la mise au travail forcé des populations indiennes par les Européens joue également un rôle central et longtemps négligé dans l'histoire du continent, aussi bien dans les territoires du Chili et du Pérou actuels que dans les territoires mayas et en Amérique du Nord. Si l'on examine maintenant le cas des empires du second âge colonial, 1850-1960, le peuplement européen était généralement très faible, voire minuscule, mais là encore avec une grande diversité de situations. Il faut tout d'abord souligner que les empires coloniaux européens ont atteint au cours de la période 1850-1960 des dimensions transcontinentales beaucoup plus importantes que lors du premier âge colonial et sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. À son apogée, en 1938, l'empire colonial britannique regroupait une population totale de plus de 450 millions d'habitants, dont plus de 300 millions en Inde, qui est un véritable continent en soi, et sur lesquels nous reviendrons en détail dans le prochain chapitre, à un moment où la population métropolitaine du Royaume-Uni dépassait à peine 45 millions d'habitants. Également à son zénith, l'empire colonial français comprenait dans les années 1930 autour de 95 millions d'habitants, dont environ 22 millions en Afrique du Nord, 35 millions en Indochine, 34 millions en Afrique occidentale et Afrique équatoriale française, et 5 millions à Madagascar, alors que la métropole ne comptait guère plus de 40 millions d'habitants. L'empire colonial néerlandais regroupait quant à lui, à la même époque, environ 70 millions d'habitants, pour l'essentiel en Indonésie, à un moment où la population de Hollande était d'à peine 8 millions. Il faut souligner la grande diversité des liens politiques, juridiques et militaires définissant les frontières de ces différents empires, sans compter que les conditions de l'organisation de recensement variaient considérablement suivant les territoires, si bien que ces décomptes ne peuvent être qu'approximatifs et valent surtout pour les ordres de grandeur. Colonies de peuplement, colonies sans peuplement. Dans la plupart des cas, le peuplement européen au sein de ces vastes empires était extrêmement limité. Au cours de l'entre-deux-guerres, la population européenne, essentiellement britannique, dans l'immense empire des Indes, ne dépassait pas 200 000 personnes, dont environ 100 000 soldats britanniques, soit moins de 0,1% de la population totale de l'Inde, plus de 300 millions. Ces chiffres disent assez clairement à quel point le type de rapport de domination n'avait pas grand-chose à voir avec celui de Saint-Domingue. Il s'agit ici d'une domination qui s'appuyait certes sur une supériorité militaire démontrée de façon incontestable lors des confrontations décisives, mais également et surtout sur une organisation politique, administrative, policière et idéologique extrêmement sophistiquée, ainsi que sur de nombreuses élites locales et de multiples structures de pouvoir décentralisées, le tout permettant de conduire à une certaine forme de consentement et d'acceptation. C'est cette domination organisationnelle et idéologique qui permit, avec une population minuscule de colons, de briser les capacités de résistance et d'organisation de la population colonisée, tout du moins jusqu'à un certain point. Cet ordre de grandeur, c'est-à-dire environ 0,1%, 0,5% de population d'origine européenne, est de fait relativement représentatif d'un grand nombre de territoires lors du second âge colonial. Voir graphique 7.1. On retrouve par exemple un pourcentage d'Européens d'à peine 0,1% dans l'Indochine française de l'entre-deux-guerres et jusqu'à la guerre de décolonisation au début des années 1950. Aux Indes néerlandaises, actuelle Indonésie, la population européenne atteignait 0,3% de la population totale dans l'entre-deux-guerres, niveau que l'on retrouve également à la même époque dans les colonies britanniques en Afrique, comme au Kenya ou au Ghana. Au sein de l'Afrique occidentale française, AOF, et de l'Afrique équatoriale française, AEF, la population européenne se situait en moyenne autour de 0,4% de la population totale dans les années 1950. À Madagascar, la population européenne atteignait 1,2% en 1945 et paraît imposante à la veille des violents combats qui allaient mener à l'indépendance. Parmi les rares exemples de véritables colonies de peuplement, il faut mentionner le cas de l'Afrique du Nord française, qui est avec l'Afrique du Sud, Boer et Britannique, l'un des rares cas dans l'histoire coloniale impliquant la confrontation entre une population européenne minoritaire mais significative, autour de 10% de la population totale, et une population autochtone largement majoritaire, environ 90%, le tout avec des rapports de domination extrêmement violents entre les deux groupes et un métissage quasiment inexistant. Ce cas de figure se distingue à la fois des colonies de peuplement anglo-saxonnes, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, marquées par un effondrement numérique des populations autochtones après l'arrivée des Européens, et un métissage tout aussi nul, ainsi que des colonies d'Amérique latine marquées par un très fort métissage entre populations autochtones et européennes, en particulier au Mexique et au Brésil. Dans les années 1950, la population d'origine européenne, c'est-à-dire essentiellement française, mais avec des minorités italiennes et espagnoles, représentait près de 4% de la population totale au Maroc, atteignait 8% en Tunisie et surtout dépassait les 10% en Algérie. Dans ce dernier cas, on comptait à la veille de la guerre d'indépendance environ 1 million de colons sur une population totale d'à peine 10 millions d'habitants. Il s'agissait en outre d'une population européenne relativement ancienne, puisque la colonisation française en Algérie avait commencé en 1830, avec une progression particulièrement rapide de la population de colons à partir des années 1870-1880. Lors du recensement de 1906, la part des Européens dépassait même 13% de la population en Algérie, avant d'atteindre 14% en 1936, puis de s'abaisser sensiblement autour de 10-11% dans les années 1950, du fait d'un accroissement encore plus rapide de la population autochtone et musulmane. La population française était particulièrement importante dans les villes. Lors du recensement de 1954, sur une population totale de 570 000 habitants à Alger, on dénombrait 280 000 Européens pour 290 000 musulmans, ainsi que l'administration française désignait les autochtones. La seconde ville du pays, Oran, comptait 310 000 habitants, dont 180 000 Européens et 130 000 musulmans. Cette population de colons français, sûre de son bon droit, refusa l'indépendance d'un pays qu'elle considérait comme le sien. La classe politique française répétait contre toute évidence que la France conserverait cette colonie. L'Algérie, c'est la France. Mais les colons se méfiaient du gouvernement de Paris, qu'ils suspectaient non sans raison d'être prêts à abandonner le pays aux forces indépendantistes. La tentative de putsch militaire menée par des généraux français à Alger en 1958 aurait pu conduire à une tentative d'autonomisation de la colonie algérienne sous le contrôle des colons, mais en pratique, elle conduisit au retour au pouvoir du général de Gaulle à Paris, qui n'eut rapidement d'autre choix que de mettre fin à une guerre atroce et d'accepter l'indépendance de l'Algérie en 1962. Il est naturel de faire le parallèle avec la trajectoire observée en Afrique du Sud, où la minorité blanche réussit à la fin de la colonisation britannique à se prolonger au pouvoir de 1946 à 1994 dans le cadre du régime d'apartheid sur lequel nous reviendrons plus loin. Cette minorité blanche représentait alors entre 15 et 20% de la population sud-africaine, proportion qui s'est abaissée à 11% en 2010 en raison des départs et de l'accroissement plus rapide de la population noire. Il s'agit donc de niveaux très proches de ceux qui caractérisaient l'Algérie française, et il est intéressant de comparer l'ampleur des inégalités observées dans les deux cas, compte tenu des multiples différences et points communs entre ces deux systèmes coloniaux.